accès libre.
Bonjour tout le monde, ici Benoît Racette. Après des budgets au provincial et au fédéral, on se prépare au Québec à vivre les élections municipales. Vous me dites, ben voyons Benoît, vous êtes trop tôt. Pas vraiment, parce que si on veut se préparer soi-même pour participer aux élections municipales ou encore qu'on est en situation de handicap, mieux vaut tôt que tard. Donc, pour comprendre les enjeux, on s'entretient avec Laurent Morissette, activiste en situation de handicap qui aspire à être candidat. Et on discute aussi avec Lise Poulin, qui a été conseillère d'arrondissement pendant 4 ans et qui a participé quand même à 2 campagnes électorales. Pour comprendre aussi la manière de se préparer, on aura les explications de Pierre Gélaporte, porte-parole du président des élections municipales de Montréal. Toujours dans le registre ville, on interroge Marc-André Gadoury, conseiller municipal sur les grands travaux sous les marquises de la Plaza Saint-Hubert à Montréal. On va faire un tour aussi, vous allez voir, c'est très loin, au lac Saint-Jean avec le groupe Espoir d'Olbeau-Mistassini. Et juste pour vous, 2 questions nécessaires, importantes. D'abord, comment accéder aux services d'aide à l'intégration au travail avec Franck Bouchard? Et question plus délicate aussi, quelles sont les nouvelles modalités juridiques des questions de soins palliatifs, de soins de fin de vie? On reçoit pour mieux comprendre Maître Fréchette. Donc tout ça sur Canal M, la radio de Fusée-Voix. Tel qu'annoncé il y a quelques semaines, on va consacrer 50 millions de dollars pour réaménager d'ici 2020 la Plaza Saint-Hubert, une des principales artères commerciales de la ville de Montréal. On a beaucoup parlé de la marquise, des coûts, du maintien de l'accès au commerce, des travaux. Mais aujourd'hui, avec notre invité, Marc-André Gadoury, conseiller de ville dans l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie, on veut savoir quelles sont les dispositions qui peuvent être prises pour que la Plaza réponde mieux aux besoins des personnes en situation de handicap. Donc, bonjour Marc-André Gadoury.
Merci de me recevoir, M. Racette.
C'est un grand plaisir. Écoutez, vous commencez... Vous avez participé aux annonces de cet investissement majeur, avouons-le. Donc, pour commencer, quels sont les travaux de réaménagement qui sont prévus?
Oui, mais vous dites, j'ai participé aux annonces, j'ai aussi participé aux consultations, donc je me sens très habilité à vous en parler. À la base, ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi on fait les travaux maintenant, ce sont la qualité des infrastructures souterraines, des égouts, aqueducs.
Oui, c'est même dangereux un peu, avouons-le.
Ben, en fait, on est en train de reprendre un retard cumulé qu'on avait sur nos grandes infrastructures souterraines.
Ça, c'est un peu le cas dans toute la ville, hein, ceci dit.
C'est un peu le cas à Avenue du Parc, Sainte-Catherine, quand je pense au service de bus rapide sur P9, si les travaux sont longs, c'est parce qu'au départ, il faut commencer par les infrastructures souterraines. Donc, pour la Plaza Saint-Hubert, aussi, les travaux sont conditionnés par des travaux importants, des égouts aqueducs.
Okay. Donc, c'est peut-être l'opportunité de refaire la plaza, la belle plaza.
Effectivement, il y a des photos d'époque où on voit de ces néons et des le premier Saint-Hubert avec un coq lumineux. Je veux dire, il y a de ces images qu'on pourrait parler de nostalgie,
qui marquent l'imaginaire, certainement.
Effectivement.
Mais donc, comme on est en 2017, comme disaient certains politiciens, il faut penser aussi aux personnes en situation de handicap. Et donc, des mesures comme l'élargissement des trottoirs aident par défaut à une meilleure accessibilité, mais l'amélioration de l'accessibilité, est-ce que ça faisait partie des plans au départ?
Dans les consultations publiques où j'ai eu la chance d'assister et de participer, c'est quelque chose aussi dans le quartier qui est partagé, la marquise.
Oui.
Cette marquise-là, elle permet à des gens d'avoir accès à des commerces de proximité en toute saison.
Absolument.
Souvent, des personnes âgées me disent, moi, l'hiver, l'endroit où je vais, c'est la plaza, parce que pour me déplacer, il n'y aura pas d'amas de glace, il n'y aura pas d'andain de neige au trottoir.
Et donc, pour que les gens comprennent, on ne parle pas de la cousine de la baronne. Là. La marquise, c'est l'espèce de toit qu'on retrouve sur une bonne partie de Saint-Hubert.
Effectivement, qui couvre tout la plaza, la société de développement commercial, là, donc de Bellechasse à Jean Talon, qui permet même d'aller au métro Jean Talon sous la marquise.
Et donc, ça sera maintenu dans les travaux?
Ça sera maintenu. Présentement, c'est une infrastructure qui qui est, je pourrais qualifier, lourde. Donc, il y avait une volonté de l'alléger un peu, donc d'en faire, de conserver cette semi-couverture par-dessus les trottoirs, mais d'en alléger un peu tout l'aspect et aussi le... on pourrait dire le volume qu'elle occupe là, en hauteur. Là. Donc, plutôt qu'avoir une pente très, très abrupte là, sur la marquise, donc une pente un peu moins raide. Donc, il va dégager quand même visuellement autant les façades des bâtiments que les vues, que l'éclairage soleil et autres. Et puis, cette marquise-là, finalement, c'est ce que les consultations, autant auprès des commerçants que des utilisateurs, et puis, pour moi, je le vois aussi...
comme un moyen d'aider tout le monde, comme protéger contre les intempéries, améliorer la visibilité. On vous suit complètement là-dessus. Donc, il y a eu des consultations auxquelles vous avez participé, c'est ce que vous nous disiez plus tôt. C'est quoi les demandes, les revendications, à part la marquise? Et moi, j'en suis, là, j'adore la marquise. c'est quoi les autres demandes, revendications que les personnes vous ont communiquées?
C'est sûr que on pourrait parler de groupes d'intérêt qui se présentent quand même dans des consultations publiques. Là. Donc,
vous ne parlez pas du rapplique, toujours? Parce qu'on reçoit aujourd'hui Laurent Morissette.
Peut-être aussi. Mais je les inclurais quand même dans des groupes de pression qui, des fois, sont cyclistes, commerçants. Mm-hmm. Donc, des gens qui
même
arrivent...
piétons, maintenant.
Ben, piétons Québec, effectivement. Donc, et la beauté des consultations qui ont été menées, c'est qu'on a à une même table, donc mêlé différents acteurs. Donc, à chaque fois, il y avait une douzaine, une vingtaine de tables avec des gens assis où on regroupait à une table un commerçant, un cycliste, une personne à mobilité réduite, un citoyen de proximité. Et puis là, la discussion n'était pas de lobby à lobby, mais de personnes, de commerçants, d'acheteurs.
Donc, c'était un peu le World Café là, qui était l'influence. Une manière d'échanger entre nous pour trouver des solutions à table concrètes.
Et effectivement. Okay.
Vous savez aussi, il y a eu des annonces en grande pompe là, qui ont été faites pour le souligner. A été lancé plus tôt cette année le programme d'aide à l'accessibilité des commerces. Donc, pour que les gens comprennent bien, il y a une limite d'argent, là, mais ça pourrait se traduire par une subvention égale à 75 % du coût des travaux admissibles pour les commerces, évidemment, pour un maximum de 10 000 $. Bon, est-ce que vous avez prévu des mesures pour promouvoir activement ce programme-là qui existe déjà auprès des commerçants de la Belle Plaza?
Il y a un bureau de projet qui va relier autant les gens de la Société de développement commercial, les commerçants, que justement tout ce qui est programme qui leur est destiné. Il y a un programme spécifique pour façade, un programme de revitalisation de l'artère.
Oui, qui existe déjà depuis un moment.
Effectivement, qui a été confirmé. Les sommes sont là. Mais le bureau de projet aura justement comme tâche de bien épauler les commerçants qui vont vouloir se prévaloir de ces fonds-là. Il faut comprendre qu'on commence, puis là, j'ai parlé en bien de la marquise, mais la première étape cet automne sera de retirer la marquise justement pour permettre plus facilement la réfection.
La faire hiberner un peu, là. Quelque chose comme ça.
On va donner plus de temps aux propriétaires pour faire la réfection de leur commerce,
mais
de leur façade.
Mais donc, ils vont disposer de peut-être une année, deux années, trois années pour faire des réaménagements, c'est ça?
Dans les phases des travaux, puis là, pour ça, la Plaza Saint-Hubert est bien singulière. Souvent, on se dirait pas de travaux avant Noël, disons.
Oui.
Mais pour plusieurs commerçants de la Plaza, c'est très différent. Leurs périodes fortes sont l'été ou même au printemps, au bal de finissant, au mariage. Et donc là...
Je dois avouer que moi, j'ai déjà porté les habits de la Plaza.
Et moi
plus
aussi.
Jeune, et même pour me marier, imaginez. En tout cas.
Donc vous êtes marié.
Oh, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est un autre sujet, on s'emballe.
Pas acheté ce tuxedo-là au mois de novembre.
Oui,
donc,
exactement.
Il y a plutôt au printemps, disons. Donc, un phasage des travaux qui va être différencié vu ce qu'on a habituellement. Donc là, on s'enligne vraiment vers des phasages où on va effectuer des travaux vers où il y a plus de commerçants, comme je disais, d'habits et de robes, plutôt l'hiver.
OK. Donc, vous planifiez quand même en fonction des produits qui sont proposés. Mais ma question, c'est est-ce qu'il y a une mesure quelconque qui a été pensée pour s'assurer que les commerçants profitent d'un programme qui est déjà là, qui n'est pas beaucoup promu, je dois vous avouer. Moi, je dois avouer qu'à l'émission, on est un des rares qui le promeut souvent. Mais est-ce que vous allez faire quelque chose pour que les gens profitent de ces subventions?
C'est clairement dans les tâches du bureau de projet de bien épauler chacun des commerçants avec leurs différentes demandes. Là, vous parlez de l'accessibilité, ça pourrait être l'entrée d'eau en plonge, de chacun des programmes de la ville de Montréal, d'aller chercher le maximum pour effectuer les travaux.
Vous allez bientôt en campagne électorale, le Marc-André Gadouri. Est-ce que vous avez envie de convaincre les commerçants d'embrasser, en fait, ce programme-là qui est tout nouveau puis qui permet de rendre les commerces accessibles?
Absolument. Je pense que M. Parente, qui est le directeur de la Plaza Saint-Hubert, aussi est très conscient des besoins d'accessibilité. Plutôt, vous mentionniez les trottoirs élargis. Il y a aussi des placettes élargies qui vont être accessibles.
Donc les bordures jolies, là, où on va pouvoir arrêter un moment, ça va être prévu pour que les personnes en fauteuil ou autrement puissent y accéder.
Soit accessible, effectivement. Donc, pour eux, je pense que c'est déjà dans la définition. Peut-être qu'ils l'ont vu au départ venant des demandes de leur... des acheteurs, disons, plus personnes à mobilité réduite, âgées, qui se déplaçaient avec une canne ou, comme je vous disais, d'entrée de jeu, l'hiver sous la marquise. Mm-hmm. Mais là, je pense qu'ils ont vraiment embrassé la solution, là. Donc, c'est quelque chose qui est dont le directeur général de la Plaza Saint-Hubert est conscient.
Parfait.
Et c'est un enjeu pour eux aussi.
Donc, on surveille ça. C'est des travaux importants jusqu'en 2020, il faut le rappeler. Et ouais, on suit la progression. Est-ce qu'il y a un endroit, là, web ou autre, où on peut voir ou en savoir plus?
Pour les commerçants, je vais parler du bureau de projet, mais c'est vrai que les communications sont assez locales.
Oui.
Sont assez locales dans le quartier. Info Travaux, qui est quand même le site web de la ville de Montréal, où les grands travaux, dont celui-là, où là, on peut suivre chacune des phases des travaux. Tantôt, je vous disais qu'on allait avoir un phasage différent que d'autres rues commerciales.
Oui.
Il n'est pas encore complètement déterminé. Là, la première phase, je vous disais, c'est la marquise. C'est vraiment le meilleur lieu pour suivre les travaux. Là.
Allons-y, le meilleur lieu pour suivre les travaux. Mais aussi, je vous le dis, ville.montréal.qc.ca/affaires. On détaille là tous les programmes, y compris le programme d'aide à l'accessibilité des commerces. Merci Marc-André Gadouri, conseiller de ville de l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie pour l'équipe Coder. Merci beaucoup.
Merci, M. Lassette.
La loi sur les soins de vie prévoit que maintenant, toutes les personnes ont le droit de recevoir des soins palliatifs et d'avoir recours à l'aide médicale à mourir, si elles répondent aux critères de la loi. Donc, il y a un aspect de cette loi qu'on n'a pas négligé, qu'il ne faut pas négliger, c'est la primauté des volontés de la personne. Donc, il faut, à vous qui nous écoutez, que les volontés soient respectées. Vous sachiez que les volontés soient respectées. Il y a toutes sortes de manières d'y arriver. Il y a des nouvelles dispositions dans la loi. Et pour en parler, Maître Laurent Fréchette, notaire du cabinet Hogue Fortier Fréchette, va nous aider. Bonjour, Maître Fréchette.
Bonjour.
Merci d'être là. Donc, expliquez-nous mieux cette procédure ou cette précision qu'on appelle les directives médicales anticipées.
Alors, lorsque la loi sur les soins de fin de vie a été mise en place en décembre 2015, la plupart des gens ont retenu essentiellement l'aide médicale à mourir comme étant le changement majeur qui se présentait, mais peu ont été au fait qu'il était dorénavant possible de venir prévoir l'expression de notre volonté à l'égard de notre fin de vie si certaines situations spécifiques pouvaient se présenter. Les gens sont habitués depuis une vingtaine d'années d'avoir fait des mandats en cas d'inaptitude.
Oui, voilà. Donc, mandat d'inaptitude. Là. C'est important
c'est
que les gens comprennent.
Hein? Absolument. Alors, dans les mandats de protection ou mandats d'inaptitude, les gens, depuis de nombreuses années, viennent prévoir des directives de fin de vie qui donnent mandat à notre mandataire de venir préciser si on est dans une situation où il n'y a plus de possibilité de pouvoir vivre sans dépendre d'une machine ou autrement, de venir apporter des précisions pour que notre mandataire puisse décider en notre nom d'arrêter les traitements pour limiter l'acharnement thérapeutique.
Et donc,
les directives, excusez-moi.
Non, allez-y.
Les directives médicales anticipées vont un petit peu plus loin. On n'est pas dans un contexte où on s'en remet à notre mandataire, mais bien dans un contexte où la personne peut dorénavant venir donner l'expression de ses volontés à l'égard de trois situations précises et elle pourra consentir ou refuser à certains soins spécifiques qui pourraient être rendus nécessaires à l'égard de la personne. Mm-hmm. Et donc, on n'est plus avec un intermédiaire qui est le mandataire pour agir, mais c'est vraiment entre la personne qui est le patient qui va donner des instructions qui pourront être transmises au corps médical dans le cadre d'un document qu'on va pouvoir rédiger.
Mais c'est majeur, M. Fréchette. Là. Ça veut dire qu'on va encore plus loin dans la précision de ce qu'on veut, au fond, pour la fin de notre vie. Donc, je me demandais comment on procède pour faire connaître ces volontés, là, ces directives médicales anticipées.
Alors, la situation qui est couverte par les directives, ce qu'on appelle les DMA, les directives médicales anticipées, alors, il y a trois situations très spécifiques qui sont couvertes par la loi pour l'instant. Éventuellement, on pourrait être appelé à avoir des modifications où il y aurait un élargissement qui pourrait se faire, mais pour l'heure, le consensus social et législatif a été porté sur trois situations très spécifiques.
Okay.
Alors, on est soit dans une situation de fin de vie et atteint d'une maladie qui serait neurodégénérative.
Donc, on peut penser, entre autres, à la sclérose en plaques ou la dystrophie musculaire. Est-ce que c'est ça dont on parle?
Ça pourrait être une situation comme celle-là. Ça pourrait être dans un cas de coma irréversible,
par exemple. Okay.
Soit qu'on est atteint d'une maladie sévère irréversible qui affecte nos fonctions cognitives, qui vont résulter d'un état comateux ou végétatif, ou si on est atteint d'une maladie sévère et irréversible qui affecte les fonctions cognitives qui vont résulter en d'une démence de type Alzheimer ou un autre type de démence à un stade avancé. Alors, donc, les trois cas, si on l'image assez rapidement et simplement, vous pourriez avoir une personne qui serait Alzheimer, neurovégétative, et qui, donc vraiment en fin de vie, et pourrait à l'avance, dans un document, venir dire, ben, si la situation se présente, voici quelles sont mes volontés à l'égard de tel type de soins.
Okay.
Ou une personne qui a la maladie de Lou Gehrig, la SLA, et qui d'avance fait connaître sa vision à cet égard-là. Ou quelqu'un qui aurait un cancer avancé et qui se dirait, ben, écoutez, si j'ai éventuellement une atteinte cérébrale qui m'empêche de pouvoir exprimer ma volonté, ben voilà, comme c'est une atteinte neurologique et que je ne peux plus le préciser, ben si je suis dans cette situation, voici qu'est-ce qui va se passer.
OK, donc il faut être très spécifique au fond.
Oui, on a vraiment trois situations spécifiques.
Mais alors, avant, parce que le temps presse, malheureusement, j'aimerais que vous puissiez nous exprimer comment les étapes, quelles sont les étapes pour faire nos directives médicales anticipées?
Alors, il y a deux possibilités. Une personne peut décider de procéder par elle-même en communiquant avec le ministère de la Santé et Services sociaux pour, le site là, santé.gouv.qc.ca pour obtenir les informations pertinentes et faire venir directement du ministère les formulaires. Et donc, il n'y a pas de frais, mais on est dans une communication téléphonique où on nous posera un certain nombre de questions pour tenter de nous identifier et on nous enverra par la poste le formulaire qu'on aura à compléter et on requerra la personne de quand même faire, d'obtenir les informations qui vont être pertinentes là, pour permettre de bien prendre sa décision de façon éclairée. Ça, c'est la première voie. La personne va le signer et va pouvoir retourner le formulaire en question au ministère qui va le conserver et l'enregistrer dans son système.
Ou, et on peut être accompagné aussi, c'est ça. Hein? C'est ce que vous voulez. On peut être accompagné d'un notaire aussi.
Ou sinon, la deuxième fois, c'est de le faire sous forme notariée. L'avantage, et ce n'est pas une question de prêcher pour ma paroisse, mais le notaire, comme officier public, fait la preuve de l'identité, donc et du consentement libre et éclairé et de la capacité de la personne au moment où elle signe les documents. Alors, c'est sûr que ça rend beaucoup plus difficilement contestable un document qui est fait devant un notaire. On est certain que la personne qui l'a fait a bel et bien compris ce qu'elle est en train de faire et que c'est pas quelqu'un qui a pu tenter de se faufiler pour faire connaître l'information, ce qui peut... Écoutez, il y a un risque qui est là quand on n'a pas une façon très précise de valider l'identité.
Oui, je comprends. Et donc, on va devoir se quitter à ce moment-ci, mais c'est important, Maître Fréchette, qu'on rappelle que les gens peuvent s'informer auprès d'un 800 notaire aussi, hein, pour trouver un notaire, avoir l'information préalable, ou encore s'adresser à vous, peut-être, Maître Fréchette. On rappelle que vous êtes au cabinet Hogg Fortier Fréchette. Merci beaucoup de nous avoir éclairé, Maître.
Ça m'a fait grand plaisir. Au revoir et bonne journée.
Bonne journée. On a exploré avec notre chroniqueur Monde du travail, Franck Bouchard, plusieurs aspects de l'intégration d'emploi ou même de l'accommodement ou de l'adaptation, mais on n'a pas encore fait, on n'a pas eu l'occasion de bien présenter ce qui est la porte d'entrée pour presque tous les services en emploi. On parle ici du service d'aide à l'emploi et de placement en entreprise pour personnes handicapées. Bonjour, Franck Bouchard.
Bonjour.
Alors, dans tous les cas, la première étape quand on cherche un emploi, c'est le CEMO, le Centre d'aide à l'emploi, c'est bien ça?
Effectivement, CEMO, c'est un vieux terme qui est utilisé et qui demeure
aussi,
toujours aussi utilisé. Là, les gens, quand ils parlent des services spécialisés de main-d'œuvre, c'est un peu ça le terme précis. Mais on utilise beaucoup encore ces mots parce que bon, l'ancienne dénomination est restée dans le jargon maintenant, dans le monde. Quand on dit on cherche un emploi, on va s'adresser aux CEMO.
C'est simple. Mais donc, qu'est-ce que c'est exactement le CEMO?
Donc, le CEMO, c'est d'abord un service d'aide, effectivement, pour accompagner les personnes dans leur démarche de recherche d'emploi. C'est un service qui est financé par Emploi Québec. Le service d'aide pour trouver de l'emploi, je peut-être démystifier un peu... Le CEMO va accompagner la personne dans ses démarches de recherche d'emploi. Il n'y a pas nécessairement un rôle de... une agence de placement. Il ne va pas nécessairement trouver un emploi pour la personne. C'est la personne plutôt qui fait des démarches et reçoit l'appui du service de main-d'œuvre. Le prépare. Le service va préparer la personne, rédiger son CV, préparer aux entrevues,
Mais
etc.
avant qu'on entre dans les services spécifiques que peuvent donner les CEMO, peu importe où on se trouve au Québec, comment on trouve notre CEMO?
D'abord, on peut s'adresser au centre local d'emploi. Donc, c'est un service qui est financé par Emploi Québec, le CEMO. Donc, on peut s'adresser à son centre local d'emploi. Je cherche un emploi. Est-ce qu'il y a un organisme dans ma ville, dans ma région, pour m'aider? Le service, donc le centre local, va le référer à ce moment-là auprès du service spécialisé de main-d'œuvre de la région. On peut aussi, sur Internet, visiter le site du regroupement des CEMO, le ROSEF, qui regroupe la presque totalité de ces organismes-là. Donc, on peut chercher sur le site web et trouver les coordonnées du CEMO de notre région ou de notre ville.
On peut même choisir sa ville d'attache pour trouver un emploi, qui sait.
Ça va pas malheureusement pas jusque-là.
Moi, j'aimerais ça trouver un job au Lac-Saint-Jean.
Il faut habiter d'abord le secteur du CEMO pour pouvoir y avoir accès. Donc, si j'habite, par exemple, en Montérégie, mais je me cherche un emploi à Montréal, je ne peux pas m'adresser à un service de Montréal. Il faut obligatoirement que je passe. Bon, ça, c'est
bon
des
de
obligations
savoir.
Un peu administratives, là, bon, bureaucratiques, mais c'est comme ça, malheureusement. Okay.
Et donc, si on parle des services, Franck Bouchard, c'est quoi l'étendue de ces services-là? Parce qu'ils sont importants.
Plusieurs services, effectivement, qu'on peut trouver dans un CEMO. comme je l'expliquais tout à l'heure, de l'aide pour trouver de l'emploi, se préparer à trouver de l'emploi, de l'aide accompagnée, rédaction de CV, etc., toutes ces choses-là. Les services spécialisés MEDEF aussi sont les mandataires un peu de toutes les subventions pour l'emploi qu'on peut obtenir, qu'un employeur peut obtenir, le contrat d'intégration au travail d'Emploi Québec, le fonds d'intégration au travail aussi qui est géré par Sphère Québec. Mm-hmm. Donc, tout ça, c'est la porte vraiment d'entrée pour avoir accès à ces mesures de financement-là, de mesures d'aide financière. Donc, ça, c'est une chose. On peut aussi, les services vont aussi va aider aussi la personne, même si elle est en emploi. La personne,
ah oui, bon, c'est ça. Donc,
même quand on est déjà en emploi, il y a une situation qui se présente, il y a besoin d'un accompagnement, d'une adaptation. Le service aussi peut aider la personne, peut aider l'employeur à, par exemple, à avoir accès à un CIT pour la personne parce qu'il a besoin d'un accompagnement, besoin de financement, etc. Peut aussi aider l'employeur à déterminer un peu la nature des besoins de la personne en termes d'adaptation, d'accommodement. Donc, c'est sûr que c'est pour les chercheurs d'emploi, mais c'est
donc,
aussi
c'est
pour des
personnes. Donc, c'est un centre avec beaucoup de spécialistes, au fond, peu importe notre déficience, qui peut accompagner...
Beaucoup de spécialistes, ou sinon vont faire appel à des spécialistes dans le secteur...
De l'extérieur.
De l'extérieur, des centres d'adaptation, par exemple, pour déterminer les besoins d'accommodement. Donc, ils sont comme ça associés avec, effectivement, différents partenaires.
OK. Et supposons, là, la grande question qui tue, on a envie de se partir en affaires, on souhaite se partir en affaires. Est-ce que le CEMO peut aussi nous aider?
C'est aussi un rôle que le CEMO peut avoir. À ce moment-là, la personne qui souhaiterait se démarrer un emploi, on va l'associer aussi avec des services externes qui sont plus reliés au démarrage d'emploi. Par exemple, ici à Montréal, PME Montréal. Donc, les CEMO vont travailler de concert avec PME Montréal pour préparer le plan d'affaires, voir si la personne a effectivement un profil au niveau de l'entrepreneurship, déterminer aussi si la personne peut avoir accès à de l'aide financière. On parlait de Sphère Québec tout à l'heure, mais également à d'autres types d'aides financières qui sont offertes par Emploi Québec pour le travail autonome. Donc, on va aussi faire un peu l'interface aussi avec ces services, ces ressources financières-là. Donc, le CEMO peut aider à différents niveaux, donc à la fois pour se trouver un emploi, pour se démarrer un emploi démarrer une entreprise, mais aussi demeurer en emploi, se maintenir en emploi. Donc, c'est sûr qu'il y a différentes dimensions dans ce point de vue-là.
Et donc, si on rappelle aux gens, Franck Bouchard, aujourd'hui, on veut trouver un emploi, on a une déficience visuelle, déficience motrice, des troubles d'apprentissage importants, en tout cas, bref, on fait quoi?
C'est une porte d'entrée qu'il ne faut pas négliger. Mm-hmm. J'aimerais dire, des fois, les gens peuvent être déçus, des fois, des services. Je m'assais adressé à mon CEMO, ils n'ont pas réussi à me trouver un emploi. Il faut faire attention aux attentes qu'on a. Comme je l'expliquais tantôt, ce n'est pas une agence de placement, donc faut pas négliger cette porte d'entrée-là. Mais il faut bien s'attendre à ce que le CEMO va aider la personne dans ses démarches, va l'accompagner. Certains CEMO vont peut-être ouvrir plus de portes auprès d'employeurs, évidemment,
mais la personne doit avoir un rôle actif dans sa recherche d'emploi,
doit être en mesure un peu d'identifier ce qu'elle souhaiterait faire, ce qu'elle est capable de faire en termes d'employeur. Donc, le CEMO va être là pour l'accompagner. Donc, pour prévenir un peu peut-être des déceptions que pourraient vivre certaines personnes, il faut quand même comprendre aussi cet aspect-là dans l'accompagnement que le CEMO peut faire.
Merci, Franck Bouchard. Comme d'habitude, vous êtes très éclairant. Ah. On vous retrouve dans un mois.
Ça me fait plaisir. À bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Écoutez Accès libre avec Benoît Racette.
C'est en octobre 2017 qu'auront lieu les prochaines élections municipales dans 1100 municipalités à travers le Québec afin de pourvoir 8000 postes d'élus, enfin on dit postes, mais élire 8000 personnes, 8000 citoyens, citoyennes. Donc c'est espéré qu'au lendemain des élections, on va retrouver un grand nombre de personnes en situation de handicap qui siégeront dans les fonctions de maire ou de conseiller. Donc, avec nous aujourd'hui, pour discuter de cette perspective, deux personnes engagées en politique, une personne officielle de la Ville de Montréal. Donc, d'abord, Lise Poulain, qui a été conseillère d'arrondissement jusqu'en 2013 et qui a fait aussi deux campagnes électorales. Bonjour, Lise.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Ça me fait plaisir.
Laurent Morissette, activiste bien connu qui aspire à devenir candidat aux prochaines élections municipales, est aussi avec nous. Bonjour, Laurent.
Bonjour, Benoît.
Et le porte-parole du président des élections municipales de Montréal, Pierre Gélaporte, est avec nous pour qu'on comprenne un peu mieux les possibilités pour devenir candidat.
Bonjour.
Bonjour. Alors, si vous me permettez, je débuterai avec Lise Poulin, puisque c'est les joies du direct, mais elle ne pourra être avec nous pour l'ensemble de l'entrevue. Alors, on va profiter d'elle au maximum. Je lance l'emblée la question, Lise Poulin. À quel point est-ce que c'est important d'avoir des personnes handicapées qui siègent à des postes d'élus?
Bien, je pense honnêtement que c'est prioritaire, parce que veux pas, lorsque j'ai eu la chance de pouvoir siéger sur plusieurs comités de travail au sein de la Ville de Montréal, de même que mon arrondissement de 2009 à 2013, ça a vraiment permis de sensibiliser davantage les autres collègues. Donc, nous étions tous des preneurs de décision à ce moment-là.
Oui.
Et ça a vraiment sensibilisé, parce qu'on pense connaître la réalité d'une personne en situation de handicap, mais quand on en côtoie une au quotidien, quand on doit changer les endroits où est-ce qu'ils vont se tenir, les rencontres, parce que c'est pas accessible, parce que la salle de bain, on peut pas s'y rendre, parce que le transport, c'est compliqué, mais ça fait en sorte que les gens vivent l'impact de la réalité de la personne en situation de handicap et ont envie davantage de faire des changements.
Bien, c'est précis, vous êtes l'exemple, non seulement pour les gens qui veulent se présenter, mais quand vous êtes élu, vous êtes l'exemple et aussi la manière de comprendre la problématique pour les autres élus. C'est excellent. Mm-hmm. Lise Poulin, vous avez été conseillère d'arrondissement de 2009 à 2013. Vous êtes ancienne candidate pour Union Montréal et aussi pour la Coalition Montréal. Est-ce que vous saviez un jour que vous feriez de la politique?
Bien, en fait, moi, j'ai toujours su que je voulais faire une différence, que je voulais changer les choses, que je voulais améliorer la qualité de vie des gens, mais comment? Non, je ne le savais pas. Étant donné que je me suis toujours impliquée dans mon arrondissement, dans ma collectivité, ça a fait en sorte que l'opportunité s'est présentée à moi, puis je me suis dit, effectivement, je voulais changer les choses, je voulais sensibiliser les gens, voilà l'occasion de le faire.
Donc, c'était le moyen de le faire. Faut rappeler aussi aux gens qui nous écoutent que vous avez été la première élue en situation d'handicap, élue en situation d'handicap. Est-ce que vous trouvez que ça a été difficile d'y arriver?
Oui, c'est difficile. Je vous cacherai pas, puis j'ai souvent dit en entrevue que pour moi, j'avais 3 handicaps.
Mm-hmm.
Donc, le premier, j'étais en fauteuil roulant. Le deuxième, j'étais jeune. Et le troisième, j'étais une femme.
Ah oui,
donc,
trois moyens d'être discriminée potentiellement.
Oui, effectivement, parce qu'on s'entend que ce qu'on voit généralement et l'image populaire du politicien, c'est l'homme dans la cinquantaine qui n'a pas d'handicap aucun.
Mm-hmm.
Mais je vous dirais que c'est possible. C'est possible quand on le fait pour les vraies raisons, quand on le fait pour les valeurs collectives, quand on le fait pour vraiment faire une différence auprès des gens. Les gens embarquent dans notre aventure avec nous.
Et qu'est-ce qui manque pour favoriser la participation politique des personnes handicapées, Lise Poulin?
C'est sûr que je ne vous cacherai pas que l'accès, que ce soit l'accès au niveau des déplacements qui doivent être faits rapidement. La ville, je peux parler entre autres de la ville de Montréal, mais tente d'avoir des locaux qui sont de plus en plus accessibles. Par contre, étant donné qu'on doit se déplacer à d'autres endroits, c'est pas toujours accessible pour une personne en fauteuil roulant. Donc, on doit vraiment essayer d'utiliser notre créativité là, pour trouver des solutions par rapport à des rencontres qui se tiendraient, par exemple, à des endroits non accessibles ou des trucs comme ça.
Donc, c'est la créativité qui prime chez une candidate en situation de handicap. Lise Poulin, est-ce que vous allez de nouveau briguer un poste de conseillère un jour ou même lors des prochaines élections?
En fait, c'est sûr que je suis en réflexion présentement pour ce qui est de novembre 2017.
Okay.
Ma décision n'est pas encore prise. Mais les portes ne sont pas fermées.
C'est un beau suspense que vous nous proposez là. Alors, on va savoir dans les prochaines semaines si Lise Poulin sera de nouveau en selle pour un poste de conseillère ou de conseillère d'arrondissement. Pendant qu'on y est, quel conseil vous donneriez à Laurent Morissette là, qui souhaite devenir candidat?
Je pense que le premier conseil, c'est vraiment de s'entourer des gens qui croient en nous, des gens qui sont prêts, puis si nous, on n'a pas nécessairement la créativité que ça prend pour trouver les solutions, d'avoir des gens très créatifs autour de nous. d'avoir des gens aussi qui sont positifs. Parce que je ne vous cacherai pas que... Puis peu importe le type d'handicap ou peu importe le type de candidat à l'élection, je pense que les gens en ont marre du négativisme qui tourne autour. Donc, c'est vraiment d'aller avec un point de vue positif.
Donc, il faut vouloir, puis il faut que ça soit positif. C'est ce que vous dites.
Oui, puis pas nécessairement mettre l'accent sur la différence, mais plutôt mettre l'accent sur les choses qui nous unissent.
Qui nous rassemble. C'est très bien. Laurent Morissette, vice-président du RAPLIC, vice-président du Forum jeunesse de l'Île-de-Montréal aussi, et surtout aspirant candidat pour Projet Montréal. Vous avez entendu les recommandations de Lise Poulin, qui a été conseillère municipale. Qu'est-ce que vous en dites?
D'abord, je voudrais juste faire une petite correction. Je ne suis plus vice-président du RAPLIC, je suis trésorier.
Ah, bon, OK.
Bon, c'est pas grave. De toute façon, on n'a pas... c'est pas vraiment les rôles qui sont importants au RAPLIC, fait que... Mais oui, j'ai entendu les recommandations de Mme Poulin, puis effectivement, je les prends avec joie. Je veux dire, pour moi, ça va de soi que dans ma vie, c'est toujours le positivisme qui me drive, là.
Oui.
Je dis pas que c'est toujours le soleil puis les l'arc-en-ciel, mais évidemment que moi, j'attends de m'entourer de gens qui sont positifs, proactifs, puis qui à la recherche de solutions. Je veux dire, le défaitisme n'a pas vraiment de place dans ce que je veux accomplir dans la vie. Fait que...
Donc, on le sait déjà, Laurent Morissette, candidat déterminé. En fait, vous aspirez à devenir candidat, c'est pas encore fait. C'est quoi vos premières impressions concernant le processus ou la possibilité de se présenter?
Ça va être assez possible, évidemment, mais comme a dit Mme Poulin, il faut vraiment beaucoup avoir de créativité. Justement, pour le soin d'anecdote, j'avais rendez-vous avec le comité électoral le 5 mars dernier, ou quelque chose comme ça, puis mon ascenseur a brisé.
Oui.
Justement, juste avant que j'y aille. Donc là, finalement, j'ai pas pu y aller, puis là... Ça a été vraiment l'hécatombe. Puis encore aujourd'hui, mon ascenseur est brisé. Fait que je suis pris chez moi.
Oui.
Donc, quand on dit faire preuve de créativité, c'est vraiment un exemple flagrant de cette question-là.
Bien, il faut être créatif, mais jusqu'à temps que l'obstacle n'est pas, disons, trop insurmontable. Est-ce que vous trouvez d'ailleurs qu'on en fait assez pour que les personnes en situation de handicap se présentent en politique, Laurent Morissette?
Ah, ben non, mais non, évidemment non. Parce que, bon, on est encore à discuter de la place des femmes puis de la place des communautés culturelles en tant que candidat et candidate. Et c'est très valable de discuter de cette question. Mais donc, si on en est à discuter de cette question fondamentale de la représentativité des communautés culturelles, il faut imaginer où est-ce qu'on en est quand on parle des personnes à mobilité réduite, là, avec en situation de handicap. Là. On est encore très loin. Là.
Oui, comme groupe, les personnes en situation de handicap sont moins visibles.
Ah oui, c'est ça. On a moins notre place dans le domaine public. On se retrouve moins dans le domaine public. Dans le domaine culturel, on est souvent confiné à des rôles humoristiques, par exemple. Donc, je dirais, les partis n'auront pas le réflexe automatique de dire « Ah, cette personne-là est impliquée, elle veut changer la vie, alors on va la recruter. »
Oui. Puis donc, est-ce que vous trouvez qu'il y a des efforts de recrutement qui sont faits ou vous devez vous battre, Laurent Morissette, pour qu'on considère votre candidature?
Moi, je considère que j'ai été bien accueilli au sein du parti pour lequel je tenterai de briguer
l'investiture
pour être candidat. Mais je peux concevoir effectivement que les gens doivent se battre effectivement pour être reconnus puis être considérés, parce que je veux dire, c'est notre vie, c'est une bataille constante. Donc je veux dire, on va pas se le cacher, il n'y a pas beaucoup de personnes en situation de handicap qui sont, par exemple, des hommes d'affaires influents ou des femmes d'affaires influentes avec beaucoup de moyens financiers, beaucoup de connexions, etc. Donc,
mais comme groupe, il y a quand même beaucoup plus de pauvreté, même si ça tente à changer. Reste que le salaire ou le revenu moyen d'une personne handicapée est plus faible.
C'est ça. Donc,
comme une personne minorisée ou issue des communautés culturelles, par exemple.
Oui, effectivement. Effectivement, la situation économique des personnes handicapées, par exemple, peut justifier aussi le fait qu'elle n'a pas nécessairement les mêmes connexions, les mêmes... J'irais même au-delà de ça. Elle n'a pas les mêmes opportunités, puisque le transport n'est pas accessible de la même façon.
Oui.
Donc, elle n'a pas accès aux lieux culturels ou elle n'a pas souvent accès aux événements montréalais, par exemple, parce que dans des commerces ou des lieux ne sont pas accessibles. Donc, elle n'est pas susceptible de connaître les gens qu'il faut pour...
Soyons même pragmatiques, Laurent Morissette, je suis désolé de vous interrompre. Même rencontrer les citoyens qui sont au haut des escaliers, là, c'est quand même tout un défi. Hein?
Ah oui, je vous mentirai pas en disant que j'ai réfléchi à cette question avec le sourire, évidemment. Mm-hmm. Mais moi, je considère que mais ça, c'est suite à ce que quelqu'un m'a dit récemment.
Mm-hmm.
Ça pourrait être un atout pour moi parce que si j'ai un bénévole qui m'accompagne,
oui.
qui monte les marches puis qui dit à la personne « Venez descendre, rencontrer mon candidat », probablement que la personne va comprendre un petit peu plus quel est le
votre message.
Quel est l'enjeu parce que je vais lui dire « Écoutez, vous voyez, vous, ça pourrait vous arriver que vous ayez besoin de trucs pour pallier à
vos handicaps,
etc. Mm-hmm. Puis vous voyez comment je suis déterminé parce que je suis là au bout des marches et je veux vous parler.
Très bien. On sent déjà votre prochain slogan de campagne. Lise Poulin, vous devez nous quitter bientôt. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose juste avant de nous quitter?
Bien, en fait, je pense que ce qu'il faut rajouter, c'est simplement que l'importance d'avoir des gens qui représentent chaque citoyen
mm-hmm.
de notre ville, de notre village, hein, parce qu'on s'entend que les élections municipales seront partout. Donc, mais de s'assurer d'avoir des gens qui nous représentent.
Mm-hmm.
Puis quand on fait notre choix en tant que citoyen, parce qu'on est citoyen avant tout, hein, moi aussi je suis une citoyenne, il faut s'assurer de faire un choix de quelqu'un qui saura nous représenter de façon adéquate.
Mm. Très bien dit. Merci beaucoup, Lise Poulin. Je pense que Laurent Morissette agrée. Merci, Alice Poulin.
Merci, au revoir.
Au revoir. Donc, je me retourne maintenant vers M. Laporte, qui est porte-parole du président des élections à Montréal. De manière officielle, M. Laporte, comment les personnes doivent soumettre leur candidature pour les prochaines élections? Comment elles sont reconnues, leur candidature est effective?
Bon, d'abord, il est bientôt pour le faire, puisque la période de mise en candidature, c'est du 22 septembre au 6 octobre prochain. C'est le début de la période électorale comme telle.
Mais il faut quand même se préparer un peu.
Il faut quand même se préparer. J'écoutais M. Morissette, qui visiblement est en train de se préparer sérieusement, et c'est très bien. Cette période-là, donc, ça suppose effectivement pour les candidats de remplir une déclaration de candidature, de recueillir des signatures, dépendant du nombre du poste qu'ils postulent. Si vous êtes candidat à la mairie de Montréal, c'est au moins 200 signatures. Pour mm-hmm. des postes de conseiller d'arrondissement, ça peut être un peu moins, 25, 50, ça dépend toujours du nombre d'électeurs que vous représentez. Et donc, c'est la première démarche qui doit être faite, effectivement.
Et c'est en septembre.
C'est en septembre. Dès le 22 septembre, la période de mise en candidature commence le 22 septembre, se ferme le 6 octobre à 16h30. Et durant cette période-là, effectivement, il y a au moins 25 bureaux sur le territoire où les gens pourront aller déposer leur candidature avec les différents éléments d'information qui sont requis avec, dont notamment des signatures.
Et donc, ça, c'est évidemment pour les élections à Montréal. Mais c'est quoi les instances qui sont en cause? Là? Quels sont les organismes qui s'occupent des élections à Montréal?
Bon, à Montréal, d'abord, le greffier de chaque municipalité, c'est vrai à Montréal, c'est vrai à Québec, c'est vrai dans les autres villes, et d'office le président d'élection mm-hmm. à chaque 4 ans. Donc, il met en place un bureau des élections qui est en train, nous, de se constituer. Au moment où on se parle, il y a déjà quelques personnes qui sont à l'œuvre. Ça va grossir au fur et à mesure qu'on approche de la date, je vais dire fatidique, mais la date du 5 novembre, du jour des élections.
Le jour avant que vous allez vous reposer.
On va se reposer quelques jours plus tard.
Ah, oui, c'est ça.
Alors, le 5 novembre, la date des élections, pour vous donner une idée, pour l'emploi pour Montréal, ça représente presque 13 000, 14 000 employés mm-hmm. qui travaillent. Donc, des employés d'un jour, des gens qui sont des scrutateurs, des secrétaires de bureau de vote, des gens qui assurent le transport de choses. Il y a énormément de monde au travail.
Mm.
Ça commence tout petit, ça finit très gros. Et donc, pendant cette période-là, ben, il y a différentes étapes. C'est balisé par la loi. On n'a pas... la loi est très précise quant aux dates. Donc, je vous disais tantôt, du 22 septembre au 6 octobre, la période de mise en candidature, ça correspond au délai prévu dans la loi. Et donc, à partir de ce moment-là, aussitôt qu'une demande de candidature a été reçue, que tous les éléments sont là, cette demande-là devient officielle, devient publique.
Parfait.
Donc, la candidature est désignée à ce moment-là.
Plongeons-nous dans les élections maintenant, M. Laporte. Quelles sont les dépenses qui sont considérées? Comment on organise ça au niveau des dépenses?
D'accord, on parle des dépenses électorales?
Des dépenses électorales,
d'accord. Ouais. Alors là, il y a des principes de base que je vais vous expliquer. Par ailleurs, je vous dis tout de suite, les dépenses électorales sont validées, sont reconnues par le directeur général des élections et pas par les présidents d'élections localement.
Ah, donc.
Ça reste quand même, ça c'est une modalité, là, mais c'est important de le savoir.
Mm-hmm.
Écoutez, une dépense électorale, de façon générale, il y a peut-être quatre principes de base. Donc, c'est toute dépense qui vise à favoriser, directement ou indirectement, ou à même défavoriser l'élection d'un candidat ou celle des candidats d'un parti. Donc, ça, c'est une chose. Deuxième élément, des dépenses qui visent à diffuser ou combattre le programme ou la politique d'un candidat ou d'un parti. Donc, c'est toujours sur le contenu. Approuver ou désapprouver des mesures préconisées ou combattues par un candidat ou un parti. Alors, on imagine un peu là, les débats qu'il peut y avoir au sein d'une campagne électorale. Et donc, des dépenses électorales peuvent être acquises, ne serait-ce que pour produire des tracts, participants, des vidéos, etc. Mm-hmm. Approuver tout ou désapprouver des actes accomplis ou proposés par un parti ou un candidat. Donc, c'est ça, c'est le principe de base.
Okay.
Évidemment, ça peut supposer pour un candidat de se louer un local, par exemple, d'avoir des ressources, peut-être s'il a les moyens d'acheter de la publicité dans son hebdo de quartier, etc. Donc, c'est ça, ce type de dépenses-là. Il y en a d'autres, évidemment, possibles.
Mais donc, vous êtes peut-être au fait, mais il y a des dépenses qui sont directement reliées au handicap. On pense à l'accompagnement, une rampe d'accès dans un local, l'interprétariat peut-être, des outils de communication de type walkie-talkie, puisque, entre autres, Monique Trudel, qui était candidate déjà des élections municipales et qui est en fauteuil, l'a utilisé, elle avait besoin du walkie-talkie pour parler aux concitoyens. Est-ce que ça est considéré au même titre que les dépenses électorales?
Écoutez, je le disais tantôt, c'est le directeur général des élections qui nous donnerait l'heure juste là-dessus. Après ma barre, je vous dirais que oui, des dépenses qui sont faites à partir des principes que je vous énonçais tantôt. Si, par exemple, pour communiquer avec des citoyens, on a besoin d'un système de communication qui est autre que de se parler de bouche à oreille comme on le fait,
ouais. Ben
j'imagine que ça peut être effectivement admissible.
Okay.
Est-ce que vous pensez
qu'il y a de l'ouverture pour considérer ces moyens-là de pallier au handicap comme étant différents des dépenses habituelles?
Ben ça, il faudrait vraiment avoir avec le directeur général des élections. Je vous avoue, je ne voudrais pas m'avancer. C'est intéressant.
Non, je comprends tout à fait.
Mais quand même, je peux comprendre. Vous mentionniez, par exemple, la rampe d'accès tantôt. Mm-hmm. Bon, j'imagine que si vous êtes un candidat, vous êtes un candidat en situation de handicap, vous louez un local, effectivement, pour votre campagne électorale, on peut présumer que dans le bail de location que vous aurez, on va prévoir qu'il y a une rampe d'accès. Ou s'il n'y en a pas une, qu'il y en a une qui sera temporaire, ça sera avec le propriétaire dans la relation, mais ça sera dans vos dépenses électorales, effectivement. Okay.
Donc, vous entendez bien, ben Lise Poulin n'est plus avec nous, mais Laurent Morissette, je pense qu'on est déjà là, une des premières revendications, si on se présente aux élections, que l'argent pour pallier les handicaps ne sera pas considéré comme des dépenses électorales. Qu'est-ce que vous en pensez, Laurent?
Bien, évidemment, je veux dire que ce ne soit pas considéré comme une dépense électorale parce que, bon, j'imagine qu'on a une limite de dépenses admissibles. Donc,
voilà.
C'est sûr que si là, louer une rampe coûte 500 $ ou je sais pas quoi, puis qu'on a une limite de 2000, 3000, 4000 $ à un moment donné, ça...
Ça finit par paraître.
Oui, ça apparaît, là, je veux dire.
Bon. Monsieur Laporte, malgré cet écueil, on se renseigne où si on souhaite se présenter aux prochaines élections municipales ou même si on veut avoir plus d'informations sur comment le faire?
Déjà, dès maintenant, il y a le site web d'Élections Montréal. Vous avez qu'à googler Élections Montréal.
Élections Montréal.
Et vous allez vous y rendre.
Bien.
Il y a déjà plein d'informations que vous allez retrouver là-dessus. Évidemment, au fur et à mesure qu'on va approcher de la période électorale, cette information-là va s'enrichir. Il y a des éléments neufs qui vont entrer. Donc, vous aurez là-dessus les renseignements, comment on peut faire pour devenir candidat, etc., etc. Tout va se retrouver là-dessus.
Parfait. Et donc, on va visiter Élections Montréal. On emprunte Google pour le trouver, Élections Montréal.
On peut prendre Google. Alors, on fait élections-montréal.com. Enfin, bref, vous allez y arriver d'une façon ou d'une autre assez facilement.
Merci pour votre optimisme. Donc, était avec nous Lise Poulin, qui fut la première femme en situation de handicap à être élue à Montréal. Merci de votre temps, Lise Poulin. Laurent Morissette, à qui on souhaite bonne chance pour les prochaines élections. Bonne chance, Laurent Morissette.
Merci, Benoît.
Et M. Pierre G. Laporte, porte-parole du président d'élection à la Ville de Montréal. Merci beaucoup, M. Laporte.
Ça m'a fait plaisir. Thank you.
La maison de répit Groupe Espoir d'Olbeau-Mistassini célèbre cette année ses 30 ans d'existence. Donc, l'organisme vient en aide aux familles qui vivent avec des enfants ou des adultes qui ont une déficience intellectuelle, physique ou un trouble du spectre de l'autisme. Et le répit pour cette cinquantaine de familles, c'est dans le haut du lac Saint-Jean qu'on peut vivre ça. Donc, c'est là que c'est bienvenu. Donc, grâce à une corvée collective, il y a une initiative... Grâce à la corvée collective, qui est une initiative de l'Association des professionnels de la construction de l'habitation de Québec, elle a pu rénover ses installations. Alors, c'est de tout ça dont on va parler avec Rosanna Perron, directrice générale de Groupe Espoir d'Olbeau-Mistassini. Bonjour.
Bonjour, M. Rassette.
Merci d'être là. Donc, Mme Perron, quand on entre chez vous, ça ressemble à quoi?
Le Groupe Espoir, on est installé dans une grande résidence avec beaucoup de commodités sur deux étages et avec une cour arrière bien équipée pour les jeux. Les familles sont accueillies par nos employés, des employés fiables, dont une en particulier qui est avec nous depuis 18 ans.
Ah, ben c'est heureux ça, parce que c'est vrai que en ces périodes difficiles, souvent, quand on aide les autres, c'est épuisant, hein? Et donc, des gens, ils doivent bien se sentir chez vous.
Oui, oui.
Qui a droit au service du Groupe Espoir d'Olbeau-Mistassini, Mme Perron?
Toute famille qui a un enfant qui a une déficience intellectuelle, physique, multiple ou avec le trouble du spectre de l'autisme. Mais ce n'est pas seulement les enfants, c'est les adultes aussi.
Ah oui, eux aussi ont besoin de répit.
oui, les familles naturelles, on en a que leur enfant a 50, 60 ans, puis ils utilisent nos services aussi.
Ah oui. Est-ce qu'il y a des coûts pour les parents?
Oui, il y a une demande. On demande 45 $ pour 24 heures, ce qui fait 90 $ pour une fin de semaine.
OK. Donc, c'est quand même moins qu'à l'hôtel et c'est plus chaleureux surtout.
Oui, c'est beaucoup plus chaleureux. Puis l'intérieur, on est adapté en fonction des fauteuils roulants aussi. Mm-hmm. On a 12 lits qu'on utilise à chaque fin de semaine parce qu'on est ouvert du vendredi au dimanche en période scolaire. Aussi, les jours pédagogiques, les jours fériés et tout l'été.
Et donc, pour que les gens comprennent bien, racontez-nous peut-être une histoire d'une famille là, que vous avez aidée.
Je crois qu'en 30 ans, on a changé
je sais que vous en avez
beaucoup de familles. nous avons probablement évité l'éclatement de plusieurs d'entre elles.
Ouais, hein?
Mais nous
c'est difficile aussi... pour les couples, pour les familles, s'occuper d'une personne qui présente une déficience ou
surtout un enfant qui demande une surveillance 24 heures sur 24, c'est très difficile.
Ouais.
Je pense aux familles qui ont un enfant au gavage. On en a plusieurs qui viennent ici. Puis bon, c'est difficile pour eux à la maison de trouver des gardiennes qui sont aptes, qui veulent faire ça.
Ouais.
Ça fait que nous, ici, en tout cas, avec nous, ils ont cette sécurité-là.
Donc, ils sont bien en main, toutes ces familles-là, depuis 30 ans que vous aidez. Madame Rosanna Perron, pour ces 30 ans d'ailleurs, votre organisme a reçu un cadeau de la part d'une vingtaine de partenaires de la région qui ont effectué d'importants travaux de rénovation. Pouvez-vous nous en parler?
Oui, c'est l'APCHQ du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pas du Saguenay-Lac-Saint-Jean, du Lac-Saint-Jean.
Du lac, oui.
c'est ça, ils ont décidé de faire une importante corvée collective dans le but d'aider un organisme. Puis moi, j'ai soumis notre organisme à l'APCHQ ils nous ont choisi pour pouvoir faire cette rénovation. Ça a duré 3 semaines. On a pu fermer seulement une fin de semaine sur les 3 semaines.
Mais oui, vous êtes quand même nécessaire pour beaucoup de gens, donc vous avez limité le temps de fermeture, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça. Ça fait que là, maintenant, on a un locaux vraiment bien adapté, avec des meubles puis plus pratiques, un plancher neuf, des portes dans les normes.
Ben c'est très bien, Rosanna Perron. Une belle histoire que vous avez vécue et surtout plein d'histoires que vous avez aidées. Donc, pour en savoir plus, on peut visiter votre page Facebook Groupe Espoir d'Olbeau-Mistassini.
Oui, c'est ça.
Et donc, on vous souhaite encore plein d'espoir, hein, parce que vous en donnez aux gens, vous donnez du répit et de l'espoir. Merci beaucoup, Mme Perron, qui est directrice générale du Groupe Espoir d'Olbeau-Mistassini.
C'est moi qui vous remercie.
Merci à vous.
Bonjour.
Donc, pour avoir plus d'informations sur les intervenants, les intervenantes qui sont venues ici à l'émission, vous pouvez visiter la page Accès Libre qui est repérable sur canalm.vuesetvoix.com. Était avec nous aujourd'hui beaucoup de monde, je dois avouer, comme c'est souvent le cas à l'émission. Marc-André Gadoury, conseiller de ville dans l'arrondissement Rosemont-La Petite Patrie, qui nous a annoncé ces travaux importants là, de la Plaza Saint-Hubert, qu'on espère qui vont donner la voix à plus de monde en situation de handicap, qui vont permettre au commerce d'être plus accessible. Maître Laurent Fréchette, notaire au cabinet Hogg, Fortier et Fréchette, qui nous a parlé de cette difficile décision, mais nécessaire, l'expression de nos volontés à la fin de notre vie. Merci beaucoup, Maître Laurent Fréchette. Franck Bouchard, comme d'habitude, sur ces moyens qu'on a d'intégrer le monde du travail grâce aux CEMO. Il y a aussi les gens qu'on a déjà entendus s'annoncer comme futurs candidats lors des prochaines élections municipales, pratiquement. En fait, Lise Poulin est toujours en réflexion, mais elle dit qu'elle y pense. Elle a été la première conseillère d'arrondissement à Montréal qui était en situation d'handicap. Et aussi Laurent Morissette, qui est aspirant candidat comme conseiller municipal à Montréal. Pierre Gélaporte est passé nous voir. Merci beaucoup. C'était le porte-parole du président des élections municipales à Montréal. On rappelle d'ailleurs qu'on peut trouver en googlant « Élections Montréal » plus d'informations si on veut se présenter ou si on veut bien surveiller tout ce qui se passe. Donc, je salue l'équipe finalement. Louise Vien à la direction. Christiane Campagna à communication. Jean-Sébastien à la liberté à la mise en onde. Ici Benoît Racette. On se reparle la semaine prochaine, puis espérons qu'on va faire ensemble des élections libres.